Cette émission vous est offerte par la bière Wachtainer, aussi nommée Sikavi, une bière internationale d'origine allemande depuis 1753, distribuée au Togo par la SNB. Wachtainer, la vie dorée.
Très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Bonjour, merci de nous choisir. Merci à vous tous pour votre fidélité sans cesse renouvelée à cette émission Club de la Presse, puisque vous savez déjà qu'il sont 11h et c'est le rendez-vous est bien pris avec l'émission Club de la Presse, que vous soyez dans votre bureau ou à la maison ou là où vous vous trouvez. Vous nous recevez alors sur la 93.5. Plus d'un tiers de Togolais envisagent quitter le pays pour l'étranger, poussé par des motivations économiques et professionnelles. C'est ce que révèle l'enquête Afrobaromètre de novembre 2024, qui met en lumière une tendance préoccupante, une donnée qui interroge sur la dynamique socio-économique du pays et les politiques publiques en matière d'emploi et de développement. Ces résultats s'inscrivent dans une tendance observée à travers le continent africain, où la migration est souvent perçue comme un moyen d'accéder à de meilleures opportunités économiques, éducatives et sociales. Au Togo, cette volonté de départ touche principalement les jeunes, 41% des 18 à 35%, les citadins 41%, les résidents de Lomé 44%, les hommes 38% et les personnes les plus inscrites 57%. Le journal en ligne Togo Breaking News est revenu sur le sujet. Nous allons l'aborder bien sûr dans cette émission et nous parlerons d'autres sujets liés à l'actualité dans cette émission Club de la Presse de ce lundi 31 mars 2024. Vous savez très bien, c'est le dernier jour alors du mois de mars. Merci de nous choisir. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Michel Coco, Victor Betomega est à la mise en onde, Jérôme Akoucha sur la mise en ligne, je suis Pascal Lossou au micro. Nos salutations fraternelles à vous tous et qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Nehor, Radio La Paix à Takpame, Central FM à Sokodé, Sky FM, nous sommes à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Baga près de Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapan. Vous le savez très bien, vous pouvez aussi nous suivre alors sur nos médias sociaux ou nos plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook, mais vous pouvez aussi nous suivre alors sur nos radios partenaires en ligne, Ibn Radio et Radio Le Bénin. Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, l'analyse, le débat sur l'actualité de notre pays, le Togo et du continent africain et aussi du monde entier. C'est avec mes confrères journalistes en studio avec moi et l'équipe de lundi se met déjà en place. Jacques Dacouti, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour aux auditeurs auditrices de Canal FM. Je voudrais profiter de l'occasion pour saluer tous nos auditeurs et auditrices. Et comme on le dit souvent, ceux qui sont actuellement dans les hôpitaux en train de nous écouter et ceux qui sont sûrement au bureau en train de nous écouter, dans les taxis partout, nous leur souhaitons une bonne journée et bonne semaine de travail par rapport aux nous musulmans qui ont fêté hier. J'ose croire qu'ils sont sortis de cette grâce de ce jeûne qu'ils ont eu. Je voudrais sincèrement leur remercier Dieu pour leur vie et dire également merci. Je voudrais particulièrement dire merci à Dieu parce que il m'a ajouté encore un jour aujourd'hui, une année de plus.
Wow, voilà. Joyeux anniversaire, Jacques.
Justement, je voudrais profiter de l'occasion pour saluer ma petite famille, saluer mon épouse et mes enfants. Ce matin, ils m'ont fait vraiment une grande surprise. Ils sont venus chanter à l'unisson. Ils m'ont fait des cadeaux.
Et ça fait chaud au cœur.
Chaud vraiment de voir ses enfants, entouré de ses enfants et de son épouse, pour rendre grâce à Dieu pour une année encore de plus. Et dire un grand merci également au personnel de Estao. Dire également un grand merci au groupe musical des assemblées d'Avenou. Vraiment, Pascal, il faut être en famille pour savoir ce qui se passe. Ce qui m'a touché, Pascal, je ne sais pas, il y a un honorable non-voyant, que je ne sais pas si vous le connaissez, il est un peu clair comme ça, il m'a surpris ce matin au bureau. Il est venu spécialement pour me souhaiter un joyeux anniversaire. Vraiment, j'étais très touché par son geste. Une fois encore, merci pour les mots. Et, mon ami personnel est ici. Je crois que à la fin de l'émission, je vais sûrement le surprendre. Bon, il va me surprendre.
D'accord.
Avec Didier.
D'accord. C'est ce qui est sûr.
Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire.
Et c'est toute l'émission Club de la Presse, hein, par mon voix, qui vous souhaite joyeux anniversaire. Et Jacques, oui, votre avis personnel est là. Je ne sais même pas. Entre temps, j'ai vu un sachet dans ça, mais je ne sais même pas que il était dans le secret des dieux pour vous donner un cadeau. Gosson Keton Manian, bonjour.
Bonjour, Pascal.
J'espère que vous allez bien.
J'allais bien.
Jusqu'à ce que
j'apprenne cette nouvelle et non, parce que là, je suis désarmé. Je ne tombe même pas à la renverse. Je suis déboussolé. Je ne sais pas si je saurais retrouver le chemin de ma ferme. Ben, le sachet dont tu parles, effectivement, c'est pas improvisation. J'ai pris un sachet de Piawata béni. Je vais lui remettre.
J'ai appris.
Tu ne peux pas comprendre. Tu sais, je suis son ami personnel. Viens-moi avoir un code que nous utilisons. Eh bien, d'abord, merci pour l'invitation. Et bonjour aux auditeurs et auditrices de Canal FM. Bonjour aux fidèles lecteurs de Liberté. Je saisis l'occasion pour dire un coucou spécial à M. Ignace. Il travaille à Sproka. À l'agent d'Asigamé. Nous l'appelons habituellement Viking. Il est d'un certain âge, mais est très amoureux du ballon rond. Quand bien lui-même n'en pratique plus, il connaît le beau jeu. Donc, un coucou spécial à lui. Je veux aussi dire d'abord merci aux membres du comité de règlement des différends qui, par leur travail, nous donnent de la matière en matière de commande publique. Et je veux ne pas dire merci spécial à l'un d'entre eux, mais profiter pour inviter les autres organes de contrôle, l'IGE, l'IGF, la Cour des comptes, la CENTIF et plein d'autres qui devraient mettre à disposition des journalistes le fruit de leur enquête, de leur contrôle et autres. Parce que si, par exemple, on prend la CENTIF et on apprend que c'est depuis 2019 ou je ne sais plus, que vous ne pouvez plus accéder à un seul de leurs rapports, et pourtant ils font le travail. On se demande à quoi vont servir ces rapports, si ça peut être mis à la disposition des journalistes pour qu'ils fassent le relais de l'information. Personnellement, à la COP, Liberté est connue, parce que nous aussi, nous faisons en sorte que le travail qu'ils font, que la population le sache. Et pour le savoir, il n'y a que les médias. Mais si d'autres devrait faire un travail de rétention sur les résultats, je me demande où est-ce qu'on va. C'est juste une invitation pour que les autres suivent le pas du comité de règlement des différends de l'ARCOP.
D'accord, merci, le message est passé. J'espère que déjà à la fin de cette émission, vous pouvez offrir votre piota à votre ami personnel. Je ne sais pas si c'est... enfin, vous l'avez si bien dit quand même que c'est un piota béni. D'accord. Didier Soba, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour aux auditrices et auditeurs de Canal FM. Bonjour à la famille de mon parrain qui fête son anniversaire aujourd'hui. Lui-même nous a coupé les herbes sous les pieds. On s'attendait d'ailleurs à le dire ici, donc il lui-même est déjà lancé le pavé dans la mare. Donc joyeux anniversaire à mon aîné, à mon grand frère, à mon parrain Jacques Diakouti. Quelqu'un de bien, sinon de très bien, sinon quelqu'un de bien.
D'accord.
Il est quelqu'un de bien. Je sais pas quelle autre phrase utiliser. Je suis très heureux de l'avoir connu, très heureux de faire sa compagnie et très heureux de partager la même profession que lui, de partager des fois les mêmes émissions que lui, sa sagesse, son expérience, sa profondeur et sa connaissance globale du Togo. Il dit souvent qu'il est de la région des savanes, mais c'est un Togolais de partout. Il est un Togolais de partout, une profonde connaissance du Togo, de tous les coins, de toutes les ethnies, c'est quand vous parlez avec lui en off, vous comprenez que c'est quelqu'un, un Togo traiteur, si vous voulez, qui a fait le tour du Togo, qui connaît chacune de nos populations.
Qu'on est bien couvé, qu'on est bien belle.
Naturellement, il connaît beaucoup de coins du Togo, sinon tout le Togo, pour fils de pasteur qu'il est, et le tour du Togo qu'il a eu à faire avec son père lui a permis d'avoir une vraie connaissance du Togo. Et si on peut avoir, je dirais même, si nous pourrons avoir ne serait-ce que 20% de Togolais qui ont une telle connaissance du pays, le Togo s'en sortirait mieux. On aura moins de difficultés dans beaucoup de secteurs, y compris politique, y compris gouvernance. On aura moins de difficultés parce que il faut des fois que des gens qui maîtrisent la composition du pays, le fonctionnement de la population puissent naturellement avoir leur voix au chapitre. Et tout ce que je souhaiterais à mon aîné, c'est que le Togo lui reconnaisse un jour ses compétences, ses connaissances, son expérience, puisque nous sommes dans la saison des nominations. Si une nomination pourrait venir de quelque part, moi seul, je serais vraiment heureux pour lui et heureux pour le Togo.
Que Dieu vous entende.
Si on le nomme, il est foutu.
Mais comment ça, il est foutu?
Moi, je vais déménager de Davier.
Comment ça? Alors, Jacques, je pense quand même que nous devons tout le temps, c'est des moments que nous devons célébrer, et célébrer surtout la vie, parce que c'est vrai, il y a notre confrère également qui célèbre son anniversaire aujourd'hui, c'est Gustave Favès Jason. Il était sur Les Radio Nostalgie, et Légende, bien sûr, et également il était sur Tropique FM et Radio Avenir. Nous passons par cette occasion pour lui dire joyeux anniversaire. Jacques, je disais que c'est un moment que nous devons toujours célébrer parce qu'aujourd'hui, il y a certains confrères qui ne sont plus à l'ordre des nôtres aujourd'hui. Et quand on prend un certain nombre de personnes comme Dominique Alizou, Lucien, qui était même d'ailleurs un fidèle de cette émission de lundi, bien sûr. Lucien Jossou, je voudrais bien parler de lui, et Ali Routakala, et tous ces gens-là qui ont fait club de la presse aujourd'hui, quand on les appellera, ils ne répondront plus. Donc ça veut dire que nous devons célébrer la vie, Jacques.
Je suis d'accord avec vous. Je vais remercier Didier et mon ami personnel pour les vœux. Et également, merci Pascal, dire merci à mes amis, les deux techniciens qui sont de l'autre côté. Vous savez, au fait, tous les lundis, nous formons une famille. Et comme tu l'as si bien dit, les lundis, quand je ne viens pas à l'émission, je suis souvent peiné de ne pas voir mon ami personnel, de ne pas voir Didier, de ne pas te voir. Parce que c'est ça la vie, tout Pascal. Il n'y a plus rien sur cette terre qu'on peut s'offrir que d'être en bon terme. C'est tout. Et lorsque ton frère a un problème, il faut tout faire pour le rendre visite. Vous avez nos confrères qui sont partis. Le samedi passé, nous étions à la morgue également pour la levée du corps d'un confrère technicien de Radio Victoire.
Mais sans été.
Nous étions là-bas. Pascal, c'était vraiment touchant de voir des confrères qui partent comme ça. Vous avez parlé de Lucien. On partageait le plateau le lundi ici avec Lucien. Dominique Alizou fut trésorier du CONAP quand j'étais le président. Et c'était un ami qui me fréquentait tout le temps. Et quand il était revenu de la Belgique pour son dernier voyage sur cette terre, je crois que j'étais la toute dernière personne qu'il a rencontrée à Estao. Il m'a dit des choses. Et quelques jours après, j'ai appris son décès. C'était vraiment très touchant. Dominique, quoi qu'on dise, vous savez, c'est un monsieur qu'on ne maîtrise pas souvent, mais lorsque vous l'approchez, c'est quelqu'un de très simple, comme également Lucien. Par la grâce de Dieu, j'ai eu à voyager plusieurs fois à l'étranger avec Lucien, Peter Dogbe et puis Guy Mario, c'était des amis. Donc c'est pour te dire que Il faut que nous aimons lorsque nous sommes vivants, Pascal. Lorsqu'on est en vie et que Dieu nous donne ce souffle de vie, si on peut s'aider, il faut qu'on le fasse. Parce qu'après la mort, on ne pourra plus le faire. C'est quand on est vivant qu'on se pardonne. Après la mort, on ne peut plus pardonner. Donc, ce que tu viens de dire tout à l'heure, c'est très touchant, très bon. Aimons-nous, vivants, et pardonnons-nous lorsque quelqu'un te piétine. Et ce qu'il faut savoir, Pascal, nous sommes des pèlerins sur cette terre.
Justement.
Nous allons un jour tous quitter. Et nous sommes venus en détail et nous allons partir également en détail. On est venus ensemble. C'est-à-dire que nous sommes venus en détail. Moi, par exemple, on m'a conçu le 31. Pascal, toi, c'est pas le 31.
Non, c'est le 18 mars.
Donc, c'est ça. Donc, aimons-nous vivants. Et il faudrait que ceux qui ont les moyens, lorsque vous avez quelqu'un qui est à côté de vous, qui souffre, il faut l'aider. Si vous avez un conseil, il faut vraiment donner le conseil à la personne pour pouvoir s'en sortir. Parce que ce n'est pas seulement l'argent, hein, souvent. Souvent, peut-être un petit geste, un petit sourire, peut-être un petit conseil pour sauver quelqu'un quelque part. Une fois encore, aimons-nous vivants, pardonnons-nous lorsque quelqu'un nous offense.
D'accord, aimons-nous vivants, pardonnons-nous lorsque quelqu'un nous offense. Gosson, c'est vrai que au-delà des journalistes, c'est des hommes politiques également qui nous quittent. Le samedi dernier, c'était l'autre Pascal Adoko qui a été conduit à sa dernière demeure. Alors, et finalement, il est très important que nous nous aimons aux vivants et qu'on célèbre aussi la vie.
La vie, elle devrait être célébrée à chaque instant. Pas, par exemple, lors de la date anniversaire ou alors chaque... Non. À chaque instant, nous avons un souffle de vie qui peut nous être retiré sans être prévenu. Personne n'a jamais été prévenu de l'heure à laquelle il va retourner auprès du Créateur. Raison pour laquelle, au-delà des vicissitudes, des rêves déçus, il faut magnifier la vie. C'est très important parce que il ne faut pas attendre de voir des situations ou de vivre certaines expériences pour se dire que la vie est belle. Non, elle est belle malgré tout. Quoi qu'on en pense, elle est belle. Si nous-mêmes nous voulons nous la compliquer, c'est en ce moment que nous disons ma vie est difficile. Non, la vie reste la vie et il faut la célébrer.
Il faut la célébrer. Disait, la vie est belle et il faut la célébrer vraiment parce que au-delà de tout, nous qui sommes vivants, nous avons de l'espoir.
Ben oui, tant qu'il y a la vie, dit-on, et même la Bible dit que même un chien vivant vaut mieux qu'un lion qui est mort. Et donc, aujourd'hui, on pourra dire que les choses ne vont pas telles qu'on l'aurait souhaité. Il y a même des rapports qui confirment ce que je viens de dire. Mais une fois qu'on continue de vivre, il faut nourrir l'espoir. Parce que l'espoir fait vivre et l'espoir fait justement avancer. Et donc, aujourd'hui, c'est vrai que nous avons notre corporation connaît des difficultés, nous perdons des confrères, des techniciens, des auxiliaires. Mais aujourd'hui, il faut que nous continuions de nourrir l'espoir de ce que la vie sera meilleure, le lendemain sera meilleur. Et c'est tout notre souhait pour chacun de nous, notre corporation, et au-delà, tout le Togo, de se dire que, quel que soit ce qui se passe aujourd'hui, les difficultés de tous les jours, le lendemain sera meilleur. Et c'est nous, notre foi chrétienne nous permet justement de nourrir cet espoir-là et d'affronter les difficultés, de les vaincre et d'avancer. Parce que je le dis encore une fois, la Bible nous dit que même un chien vivant a plus de valeur, sinon plus de force, qu'un lion mort.
D'accord. Jacques, oui, les difficultés sont inhérentes à la vie humaine. Tant qu'on vit, on a toujours des problèmes. Il semble même d'ailleurs que ce sont ces problèmes qui forment pour la vie. Mais je ne sais pas si peut-être ce sont ces difficultés, puisqu'il y a Didier qui l'annonçait très bien, qu'il y a des rapports quand même qui attestent cela, qu'il y a des difficultés économiques. Il y a certains quand même qui trouvent des difficultés même sur le plan professionnel. Togo Breaking News est revenu sur cela et j'en parlais même d'ailleurs dans au début alors de l'émission dans mon préambule où plus d'un tiers de Togolais envisagent quitter le pays hein, pour l'étranger et ils sont poussés par des motivations économiques et professionnelles. Alors oui, mais les difficultés finalement, il y a cinq qui décident quand même de dire, Jacques.
J'ai lu le rapport de notre confrère, c'est vrai que c'est pas lui qui a
fait le rapport,
voilà, il a publié, parce que souvent il m'envoie ses publications, je l'ai lu. Pascal, vous savez, comme vous l'avez si bien dit, les difficultés, il y en a partout. Ça, il faut qu'on le reconnaisse. Les difficultés, il y en a partout. Pascal, ne pensez pas souvent que c'est celui qui est en face de vous qui est votre problème. Il y en a qui pensent souvent que peut-être que c'est la maman qui a son problème, son papa qui a son problème. Pas du tout. Ni le papa, ni la maman n'est pas ton problème. Le problème est là, nous. Nous allons également partir laisser le problème. Ça, c'est comme ça. Et ne pensons pas qu'on peut changer, qu'on peut transformer le monde. On ne pourra pas. C'est-à-dire que tout ce que, qui a été prévu, qui puisse arriver dans le monde, cela peut, ça va s'appliquer. Nous n'avons aucune force, nous n'avons aucun pouvoir de pouvoir arrêter cela. Mais tout ce que nous pouvons demander, Pascal, c'est que lorsqu'il y a par exemple ces problèmes, qu'on puisse avoir quelqu'un, une main de secours, qui puisse nous aider. C'est comme un enfant que vous avez à la maison et qui apprend à marcher. C'est-à-dire que l'enfant a besoin souvent de s'appuyer sur sa maman ou sur son papa avant de commencer par marcher. Donc c'est comme ça que nous devons être les uns pour les autres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faudrait que le gouvernement soit un appui pour les populations que nous sommes. C'est vrai que c'est, comme je l'ai dit, c'est un peu compliqué un peu partout. C'est difficile, ça il faut le reconnaître. Quand on dit que les Togolais veulent quitter, par exemple, le pays, c'est pas de gaieté de cœur que, par exemple, les responsables qu'ils sont, c'est-à-dire je voulais parler de ceux qui nous gouvernent, je ne crois pas que ça soit leur gaieté de cœur de pouvoir lire ces rapports et qu'on dise qu'il y a des compatriotes qui veulent quitter. C'est pas de gaieté de cœur. Et je ne pense pas qu'un responsable puisse être content que sa population puisse quitter. Non, c'est pas ça. Mais quand cela arrive, il faut maintenant, Pascal, réfléchir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on ne puisse pas avoir, par exemple, ces déplacés-là? Où est-ce qu'on a failli? Comment faire pour relever le défi? C'est à ça qu'il faut penser. Au lieu d'être là pour dire que non, bon, on peut partir parce que c'est difficile. Parce que là où ils vont également, ce serait également difficile. Il faut qu'on se dise la vérité. Pascal, dites-moi, dans quel coin du monde aujourd'hui on a la stabilité? Un peu partout, ça ne va pas. Donc il faudrait que les gouvernants, chaque pays puisse réfléchir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle du développement, il faudrait que les responsables de chaque pays puissent réfléchir à comment faire son propre développement. Si on ne réfléchit pas comme ça, nous aurons également toujours les bras valides qui vont partir. Et finalement, ceux qui vont rester, Pascal, constitueront également un poids également pour les gouvernants. Parce que si les bras valides s'en vont, après ceux qui sont là, ils ne sont pas valides. Comment il faut faire? Donc, il faut réfléchir une fois encore. Je crois que nous avons toujours ce ministère de la jeunesse, non, je crois, et de l'emploi des jeunes. Voilà. Donc, il faudrait que ce ministère-là, avec ce rapport qu'ils ont entre les mains, puisse organiser des forats dans chaque région du pays. Organiser des forats et demander effectivement à cette jeunesse qu'est-ce qui ne va pas. Où est-ce qu'il faut frapper pour que les choses s'arrangent? Mais si on se tait, Pascal, on aura toujours cet exode. Comme moi, j'ai toujours la chance d'aller vers l'intérieur du pays. Vous savez, quand vous avez des parents, vous êtes obligé de tout le temps de vous développer et de vous déplacer. Pascal, vous allez dans certains milieux aujourd'hui, c'est des vieilles que vous retrouvez. C'est des vieux qui sont là. Même pour puiser de l'eau, là, c'est un problème. Vous êtes obligé de l'appeler, quelqu'un d'à côté pour venir vous puiser de l'eau. Vous voyez, donc, c'est quelque chose avec ce rapport que le gouvernement s'asseye à tête reposée et se dire, réfléchir, au lieu de pouvoir peut-être s'énerver quelque part. Ça, il n'y a pas à s'énerver.
Merci, Jacques. Oui, Gosson, nous ne sommes pas un pays en guerre, ni en conflit, mais quand on écoute avec Afrobaromètre qu'un tiers des Togolais envisagent quitter le pays pour d'autres horizons et surtout pour chercher le mieux-être, est-ce que finalement, ça ne doit pas constituer un problème, justement, au niveau de l'État?
Je me dis, d'abord merci Pascal, je me dis que si ce travail avait été mieux affiné, le chiffre dépasserait le tiers.
Ben, peut-être il faut préciser que les données d'Afrobaromètre disent que un tiers disent qu'ils vont quitter et que 52% des Togolais disent y avoir pensé une fois. C'est-à-dire que 52% des Togolais...
Plus de la moitié.
Plus de la moitié de Togolais ont pensé une fois quitter le Togo.
C'est donc, comme
c'est-à-dire
si...
sur les 8 millions, environ 4 500, 6 ans, l'opportunité, ont pensé quitter le pays.
Donc là que la précision est faite.
Et pourtant, je n'ai pas encore eu connaissance du rapport. Mais nous sommes, je suis presque dans le vrai. Et quand on prend par exemple le secteur de l'enseignement, le traitement salarial qui est réservé aux enseignants togolais par rapport à ceux qui émigrent vers l'extérieur, rien que le Burkina, le Mali, le Niger, tu approches, tu connais un enseignant, un Togolais qui enseigne dans l'un de ces trois pays et que tu l'interroges, tu pourrais tenter d'y aller aussi. Parce que les conditions d'enseignement là-bas sont telles que ça attire les étrangers. C'est vrai, par exemple, au Mali, il n'y a pas... beaucoup ne fréquentent pas. Donc, ils ont besoin d'enseignants d'autres pays. Donc, c'est une aubaine pour certains au Togo. Donc, je me disais que si, par exemple, on rassurait ceux qui sont encore au Togo, parce qu'il y a beaucoup qui ont peur de l'aventure, même si, ça, si la situation ne va pas bien dans leur pays, ils ont peur. Donc, si on arrivait à les rassurer sur certains plans, je me dis que très bientôt, le secteur de l'enseignement au Togo va connaître une pénurie d'enseignants, parce que ailleurs les conditions sont beaucoup, beaucoup, beaucoup meilleures. Quand tu prends par exemple les lieux de loisirs, hein, récemment j'en ai parlé en Mina ou alors en français, je ne me rappelle plus, de Lomé à Saint-Cassé, si on veut compter le nombre de bars qui sont ouverts par des privés, c'est beaucoup, c'est des milliers. Et dans ces milliers de bars, ce ne sont pratiquement que nos sœurs qui y travaillent. Le traitement qui leur est réservé à la fin du mois. On parle de SMIC au Togo qui est de 52 500. C'est difficilement que certaines filles perçoivent 30 000. Or, ailleurs au Burkina, au Niger, au Mali par exemple, le traitement aussi diffère. Ce qui fait que tu vas retrouver des Togolaises qui font ce service ailleurs. Pourquoi cet état de choses? C'est le lieu de... Je veux suivre les pas de Jacques en disant que c'est un rapport qui doit faire réfléchir ceux qui nous gouvernent. Autrement, il viendra un moment où ils vont proposer des emplois, mais il n'y aura pas de demandeurs, parce qu'ils seront tous partis. Si nous sommes encore là, c'est compte tenu, par exemple, personnellement, moi, c'est compte tenu de certaines situations. Autrement, dans ma jeunesse, qu'est-ce que je n'ai pas fait pour depuis quitter ce pays?
Quoi, vous avez tenté de quitter le pays?
Par rapport à mon âme aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses que je... Déjà, les statistiques montrent que ce sont plus les intellectuels dont le taux de rêve de quitter...
C'est 57%.
Voilà, justement. Ça doit inquiéter tous ceux qui vont à l'université et autres, là, qui sont en terminale et autres, pourvu que une opportunité s'ouvre. Si, par exemple, pour rallier l'Europe, ça ne devrait pas être par la mer, mais que ce serait par la terre, il y aurait beaucoup plus de candidats. Et ça, c'est... Ça reflète comment le pays est géré. Dans le passé, les Togolais ne rêvaient pas de quitter le Togo. Mais Pascal, qu'est-ce qui s'est passé en temps? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que les gens prendront le temps de faire un bilan rétrospectif pour mettre le point sur là où ça, ils ont failli? Mais tant qu'ils voudront faire la politique de l'autruche, ils ouvriront un jour les yeux pour découvrir que autour
n'est plus que désert.
Merci Godson pour votre intervention. Didier, oui, d'aucuns disent que dans le monde aujourd'hui, il y a cette inflation économique qui fait que les choses deviennent difficiles alors partout. Est-ce que le Togo est un cas particulier?
Non, mais tu sais, moi je suis généralement souvent contre les comparaisons, de dire quand il y a du mieux ailleurs, on dira nous sommes nous, et quand il y a une situation compliquée, on va chercher des raisons ailleurs pour nous comparer. Moi, j'aime jamais cette stratégie de se dérober. Autrement, ça revient à la politique de l'autruche qui refuse de voir la réalité en face. Aujourd'hui, il y a une réalité qui est en face. Pourquoi les citoyens américains, par exemple, ne rêvent pas de quitter les États-Unis pour venir au Togo? Pourquoi est-ce que les citoyens canadiens et d'autres ne rêvent pas de quitter pour venir? Pourtant, il y a de l'inflation dans ces pays un peu partout.
Peut-être quand ils viendront, c'est tourisme.
Ben voilà, d'accord, ok, tu as dit tourisme. Mais je ne crois pas que les Togolais qui veulent quitter le Togo veulent aller en tourisme quelque part. Donc voilà, c'est la situation est aujourd'hui compliquée pour tout le monde. C'est saisissable, c'est juste qu'on ne peut pas prendre pour montrer à quelqu'un, mais vous passez partout. Les discours que vous entendez, les plaintes que vous entendez, Pascal, je connais, tu es un simple journaliste, mais je connais le poids des difficultés, des charges que tu as à gérer dans la famille, par exemple, parce que tu es justement l'intellectuel et celui qui a réussi dans la famille, et tu as tout le poids. Pourtant, simple journaliste comme Togolais. Donc, la situation est très compliquée aujourd'hui, nous la vivons tous. Et les chiffres, heureusement qu'il y a un travail scientifique qui est fait derrière et qui aujourd'hui fournit, et qui a fourni autant pour moi des chiffres aujourd'hui qui nous permettent d'analyser la situation au fond et de savoir à quoi s'en tenir et notamment peut-être les actions à déployer pour justement corriger s'il le faut le tir dans les années à venir. Alors les chiffres, l'enquête Eurobaromètre nous amène aujourd'hui à nous questionner sur les dynamiques que nous avons, la dynamique socio-économique dans le pays. Vous savez, tous les Togolais disent que l'argent ne circule pas dans le pays. Comment on fait finalement pour que l'argent circule dans le pays? L'argent circule pas au Togo. Les gens veulent aller à quelque part où l'argent circule. Et on parle également des difficultés d'accès à l'emploi. Et
mais est-ce que là aussi ce n'est pas une illusion? C'est-à-dire quelque part où l'argent circule, nous irons tous là.
Non, quand on dit l'argent circule, c'est très simple. L'argent circule si je prends mon beignet, je fais mon beignet et je veux vendre le beignet. J'expose les beignets au bord de la route. L'argent circule, ça veut dire que des gens ont peut-être venir acheter les beignets pour que je puisse rentrer dans mes fonds. Peut-être si j'ai emprunté de l'argent quelque part, rembourser, avoir le bénéfice pour au moins gérer la famille à la maison. Mais si je fais les beignets, j'expose, et qu'il n'y a personne qui peut acheter, l'argent ne circule pas. On n'a pas dit qu'on devrait distribuer de l'argent à monsieur tout le monde. Mais il faut justement que le pouvoir économique des Togolais puisse permettre à ce que les activités marchent pour monsieur tout le monde. C'est tout ce qu'on dit, l'argent doit circuler, c'est dans ce sens-là, c'est pas qu'on doit partager de l'argent aux gens. Mais si je prends quelque chose, je veux vendre, il faut que je puisse, en exposant, en fin de journée, pouvoir vendre, faire les comptes, rembourser les dettes et tout ça, avoir les bénéfices pour pouvoir vivre et continuer la vie. Mais l'argent ne circule pas. Le monsieur qui a loué, j'étais géré une situation hier, une dame a loué sa maison à un monsieur qui, depuis qu'il a pris la maison, n'a plus trouver les moyens de payer le loyer à la fin du mois. Il avance et il a commencé à faire moins à crédit, tu vois. Mais quand vous lui demandez, il dit, vous connaissez la situation à Lomé, vous connaissez la situation au pays, c'est très compliqué. Mais la dame qui a peut-être, je ne sais pas, fait les prêts pour faire sa maison et voudrait peut-être assurer ses vieux jours avec les loyers de fin de mois. Mais voilà, on se trouve dans une situation où quelqu'un qui travaillait ou qui se débrouillait n'arrive plus à trouver les moyens pour régler les détails. L'argent ne circule pas. Donc, on pourra se dire, est-ce que ça pourra se faire par un coup de baguette magique? Non. Mais pourquoi les gens choisissent de partir ailleurs? Ailleurs, quand tu vas faire tes beignets, tu pourras les vendre. Ailleurs, quand tu iras faire ton travail, tu auras au moins un salaire respectable qui t'honore au moins, tu pourras faire face à tes dépenses et tu auras au moins de quelque chose à faire l'économie. Il disait d'ailleurs que nos sœurs sont des serveuses dans des bars. On leur paye 30 000, même pas l'ancien SMIG. Hein. On leur paye 30 000.
Difficilement. C'est souvent 15, 20 000.
D'accord. Difficilement, on leur paye 30 000. Elles vont se loger comment? Elles vont se nourrir comment? Si il arrive qu'elles ont des enfants, parce que souvent c'est des filles mères, comment est-ce qu'elles vont nourrir leurs enfants? Et s'il arrive que les enfants vont à l'école, comment faire? Et c'est très compliqué que le premier choix et la première possibilité qui s'offre à des personnes comme ça, c'est de quitter le pays, c'est de partir ailleurs. Mais est-ce que ça nous arrange de voir nos citoyens être candidats à quitter le pays à tout bout de champ? Même les intellectuels, tous ceux qui ont fait des études supérieures, universités, qui ont leur licence, les masters un peu partout, les doctorants, on en compte moins ici parce que la plupart sont déjà partis. Est-ce que ça honore le pays de voir des têtes comme ça, des bras valides, des actifs comme ça, qui décident de quitter le pays? Et on parle là de jusqu'à 52% qui pensent quitter, s'ils ont la possibilité de quitter, ils quitteront. Pour finir là-dessus, le dernier concours général de la fonction publique qui a été proclamé. Moi, j'en connais quelques-uns qui ont attendu durant 2 ans que le concours soit proclamé. Le concours n'a pas été proclamé. Ils ont espéré fatiguer. La plupart sont partis. J'en connais plusieurs qui sont partis, soit au Canada, soit aux États-Unis. Il y en a qui sont décédés, malheureusement, dans ce cas-là. Pour ne pas décéder, justement, certains ont choisi de partir. Est-ce que ça, c'est ce que nous choisissons? C'est ce que nous voulons pour notre pays demain? Je ne crois pas. Et donc, nous devons à présent questionner nos politiques publiques en matière d'emploi, en matière de gestion économique, en matière de gouvernance globalement, pour voir qu'est-ce qu'on fait pour mettre les Togolais à l'aise. Parce que le chef de l'État lui-même l'avait déjà dit en 2012, je le cite, une minorité là, qui s'accapare des biens de l'État pendant que la majorité ploie sous le poids de la misère. Fatigués de la misère, certains d'entre cette majorité-là choisissent de partir et je crois que ça doit interpeller au plus haut sommet de l'État.
D'accord, ça doit interpeller au plus haut sommet de l'État, Jacques. Oui. Est-ce que finalement, ce n'est pas aussi une question de gouvernance?
Bon, vous savez, Pascal, le vrai problème aujourd'hui, on l'a toujours dit. Vous savez, quand le président de la République parlait de cette classe riche et qui a tout et les autres souffrent, mais il avait bien vu. Mais c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, Pascal. Parce que dans notre pays, le constat aujourd'hui, Pascal, c'est que, on l'a toujours dit, il n'y a pas de riches intermédiaires.
La classe moyenne.
Non, il n'y en a pas. C'est-à-dire que le constat aujourd'hui, il y a des gens qui sont extrêmement riches et des gens qui sont extrêmement pauvres. Donc au milieu, c'est-à-dire qu'il n'y a rien. Jusqu'à ce que 5 francs quittent le 7e ciel pour tomber, c'est-à-dire sur la terre, vous voyez le vent qui va souffler, jusqu'à ce que ça ne tombe là, vous voyez des milliers, c'est-à-dire que pour ce 5 francs-là, vous voyez comment les gens vont s'accrutiner pour avoir ce 5 francs. C'est ça le problème. Aujourd'hui, Pascal, il faudrait que nos gouvernants puissent réfléchir à créer les riches intermédiaires. Vous prenez la France, il y a ça. Hein? Aujourd'hui, quand vous voyez aujourd'hui l'économie française, s'il n'y avait pas effectivement ces riches intermédiaires, je vous dis que Macron allait démissionner depuis. Vous voyez les crises qu'il y a là-bas tout le temps, mais c'est parce que quand il y a une crise, il y en a qui mettent de l'argent tout juste pour couvrir ce que nous sommes en train de voir. Mais dans notre pays, c'est ce que nous n'avons pas. Aujourd'hui, vous prenez par exemple un jeune qui a par exemple appris à faire l'alu. Vous comprenez, menuiserie alu. Le monsieur veut s'installer à son propre compte, Pascal. Il cherche que 50 000 francs, il ne trouve pas. 50 000 pour pouvoir s'installer, il ne trouve pas. Il va à gauche, à droite, il ne trouve pas, Pascal. Ce monsieur-là, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? S'il entend aujourd'hui, par exemple, qu'en allant au Niger, en allant en Libye, en allant au Soudan, que tu peux trouver un truc, mais qu'est-ce que vous voulez que le monsieur fasse? Il va partir. Le monsieur va partir. Il a dit tout à l'heure que nos compatriotes vont au Mali, vont au Burkina, vont au Niger pour enseigner. Parce que vous n'êtes pas surpris de voir des Togolais aller, malgré cette guerre. Les gens vont là-bas pour enseigner. Posez-vous des questions.
Pourquoi c'est les la situation gens... sécuritaire qui est...
C'est ce que j'ai dit. Malgré ça, pourquoi les gens y vont? Donc, je crois que, comme moi je l'ai dit tout au début, que le gouvernement prenne ce rapport. Il ne faut pas que les gens disent que non, c'est pour salir le gouvernement. Non. Que le gouvernement prenne ce rapport à tête reposée. Prendre secteur par secteur. Prendre secteur par secteur, analyser. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui les jeunes, il y a les femmes, il y a aujourd'hui, bon, on peut parler des commerçants, des cultivateurs. C'est vrai qu'en tout temps, le président de la République avait commencé la rencontre avec les paysans, les cultivateurs et tout. On a vu que ça avait commencé par prendre. Mais le constat aussi, c'est que il y en a qui sont rentrés dedans sans rien maîtriser, ils ont mélangé les choses. Donc c'est à M. Faure Gnassingbé de savoir aujourd'hui comment faire pour que les populations qui sont en train de partir, que ces populations ne quittent plus. L'autre aspect, Pascal, quand vous prenez aujourd'hui les bonnes femmes qui ont fait des prêts pour lancer les activités, la plupart, vous allez voir que les boutiques ont fermé. Les gens ont transformé leur garage. C'est les garages aujourd'hui qui servent aux gens de pouvoir vendre leurs marchandises. Et vous savez comment ça se passe. Dès qu'ils voient les agents de l'OTR, ils poussent les portails, ils ferment, ils sont à la maison. Quand les agents la quittent, ils ouvrent. Est-ce que ça, l'économie peut se développer? Pas du tout. Aujourd'hui, les femmes nous parlent que non, avec la fiscalité de gauche à droite, ça fait qu'elles n'arrivent pas à vendre. Mais j'étais étonné une fois encore, la dernière fois, d'apprendre que l'OTR n'atteint pas ses objectifs. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Les femmes crient qu'il y a trop de taxes. Au même moment, on dit non, que l'OTR n'arrive pas à atteindre ses objectifs. Mais Pascal, on se pose la question. Qu'est-ce qui ne va pas? Tout cet argent-là qu'on collecte, l'argent là va où? Ou bien c'est parce qu'on ne collecte pas bien, ou bien on collecte et l'argent va ailleurs. Vous voyez, donc, il y a un problème. Donc, je crois qu'avec le diagnostic qui a été fait à l'Assemblée nationale et avec ce rapport, je serai par exemple à la place du gouvernement que je mettrai sur pied, Pascal, un groupe restreint pour réfléchir, pour voir pourquoi cette jeunesse-là est en train de quitter et comment faire effectivement pour bloquer les blancs valides. Parce que les gens vont partir à la retraite, hein, Pascal. Les gens vont partir à la retraite et les gens sont fatigués. Donc si vous ne savez pas faire, les gens sont en train de partir, qui va développer le pays demain? Donc, prenons ce mal en patience, réfléchissons et voyons les pistes par lesquelles nous pouvons passer pour sauver effectivement cette jeunesse togolaise.
D'accord, oui, mais Gosson, quand tu prends le processus de déguerpissement qui a été lancé récemment, ça ne concerne pas...
Au niveau de la plage?
Oui, un, deux ou trois citoyens. Or, derrière tout ce monde, il y a des bouches à nourrir. Quand on remet à plat ton initiative personnelle au motif de je ne sais quelle structure qu'on voudra mettre à la place, à la plage, devrait-on être étonné que parmi ceux-là, il y a encore des candidats qui désirent quitter le pays? On ne devrait pas s'en étonner. C'est comme parfois, et même pour ces cas-là, qui s'acquittaient de leurs taxes avant. Maintenant qu'on a détruit leur commerce, il y aura un manque à gagner à l'OTR. Maintenant, l'OTR va remonter la pente comment? Puisque sans activité, nous ne pouvons pas nous acquitter des taxes. Mais si nous mettons sur place des initiatives et que c'est l'État qui vient remettre tout à zéro, on se demande quel est cet amour qui devrait lier l'État à ses citoyens et qu'on a du mal à trouver, du moins, même avec la loupe, on a du mal à déterminer cet amour qu'on cherche en vain.
D'accord.
Ça ne va pas.
D'accord. On va parler maintenant de l'OTR. Jacques et Gosson font bien quand même de faire la transition. C'est vrai, tout récemment, à l'Assemblée nationale, il y a cette loi de réforme, même d'ailleurs, de l'institution qui a été votée. Et Jacques l'a dit, avec tout ce qui se passe, on nous parle alors de l'OTR qui n'atteint pas ses objectifs. Alors finalement, est-ce que on pourra dire que dans la gestion, il y a de l'insuffisance?
Bon, est-ce que c'est à nous de le dire? Le ministre de l'économie et des finances a dit devant les députés qu'il y a un audit qui a été fait et qui a révélé des problèmes dans la gestion et des difficultés qui font que l'OTR n'est pas si performant que l'État l'aurait voulu. Et donc la réforme qui a été engagée, donc qui a permis donc au vote de cette loi la dernière fois, cette réforme la vise donc à optimiser la gestion de l'OTR et le contrôle donc de cette régie là financière. Donc c'est pas à nous qui faisons le constat, c'est le ministre qui dit qu'il y a eu un audit qui a été fait et qu'il faut revoir la gestion. Et on a supprimé par exemple un certain nombre d'organes qui ont rendu peut-être la gestion lourde ou les procédures assez longues et lourdes à ce niveau-là de l'OTR. Donc c'est l'État qui a engagé la réforme sur l'OTR. C'est l'État même qui fait le constat de ce qu'il y a des problèmes avec cette structure-là. Et ils ont décidé de régler ces problèmes par la modification de la loi qui crée la structure. Mais maintenant, ce que nous allons espérer, c'est que cette loi qui a été votée, dans l'application de la loi, on peut y avoir un léger mieux dans le fonctionnement de l'OTR et justement également dans la conduite de la politique fiscale du pays. On ne dit pas, par exemple, que les citoyens ne doivent pas payer de taxes. Un pays ne se construit que par l'engagement et la volonté de ses citoyens qui acceptent de payer les taxes. Mais au-delà, il faut des fois qu'on essaye de... en matière de l'ETR, ce que nous allons souhaiter, c'est qu'on essaye de manier, de savoir manier bâtons et carottes. Pour qu'il n'y ait pas trop de bâtons, pour que ce que Jacques disait tantôt, des gens puissent déclarer faillite et mettre la clé sous le paillasson. Et de l'autre côté, ne pas faire que la carotte seulement. Où on ne fait pas de taxes. Il faut savoir trouver le juste milieu dans un pays où nous vivons des difficultés tous les jours. Et il faut justement qu'on puisse, avec une... Je sais pas, on pourra trouver du génie dans cette histoire-là, une politique fiscale qui permet quand même d'accompagner les jeunes entrepreneurs parce que ils subissent s'ils finissent par subir les pressions, ils déclarent ils vont déclarer la faillite et puis c'est fini. Là, ils vont peut-être, seront candidats à ce que nous venons de dire, à l'immigration. Et ce ne sera pas bien non plus pour le pays, parce qu'il faut qu'il y ait des gens, des initiatives comme ça, des entreprises et des initiatives d'entrepreneuriat de jeunes puissent pouvoir porter dans le pays pour que ces jeunes-là, justement, finissent par payer les impôts pour permettre au pays de fonctionner. Donc, c'est ce que nous allons dire. Le constat est fait. La réforme est engagée. Maintenant, on verra dans l'application ce que ça va donner. Et ensuite, il faut voir quelle politique, justement, nous mettons en place pour accompagner les initiatives des jeunes, les jeunes entrepreneurs qui aident quand même l'État à absorber ne serait-ce que un peu de main-d'œuvre, sinon une bonne partie de la main-d'œuvre qui est sur le marché.
Jacques, je lisais quelque part que déjà pour les dispositions qui sont prises au niveau du ministère même de l'économie et des finances, c'est ce ministère, il y a même d'ailleurs une équipe technique qui pourra facilement faire de l'audit à l'OTR. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'au fin fond il y avait vraiment un souci, surtout sur la gestion en matière économique bien sûr à l'OTR?
Non, je crois que avec ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale par le vote de cette disposition, je serai par exemple à la place du président de la République que je vais auditionner tout ce monde-là. Je vais les auditionner par rapport à la gestion. Parce qu'on ne peut pas dire tout le temps au président de la République qu'on mobilise tant de milliards. Je sais pas si vous comprenez, Pascal. Au lendemain, on nous dit que ça ne marche pas. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Soit on a mobilisé les fonds et les fonds ont pris une autre direction, soit on ne mobilise pas et on trompe le président de la République qu'on mobilise les fonds. Ça n'a pas de sens. Et quand vous écoutez, par exemple, le ministre des Finances, pour ceux qui ont suivi un peu son discours à l'Assemblée nationale, parce que ce n'est pas tout qu'on passe sur les médias, vous suivez, vous écoutez. Il a dit quelque chose la fois passée, mais il y a un problème, Pascal. Il y a un problème. C'est-à-dire qu'un ministre des Finances qui aille dire qu'il n'a pas le monopole sur le conseil d'administration de l'OTR, mais il y a un problème, Pascal. Il y a un problème. Donc si aujourd'hui, tout ce mécanisme-là a été revu pour que le ministre des Finances puisse avoir maintenant la même mise pour pouvoir voir ce qui se passe réellement au niveau de l'ETR, mais c'est une bonne chose. Mais quoi qu'on dise, Pascal, aujourd'hui, quand vous parlez au Togolais, les Togolais ne pourront pas comprendre qu'on puisse dire que au niveau de l'ETR, il y a des problèmes. Qu'on dise qu'on n'arrive pas à mobiliser les fonds au même moment, tout le temps, les Togolais sont obligés de fermer parce que il y a trop de taxes. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché en ce moment? Donc je crois que ce que l'Assemblée nationale a fait la dernière fois, c'est une bonne chose, mais il faudrait que le président de la République puisse aller encore loin dans cette affaire. Essaie d'auditionner, il peut former une commission pour auditionner individuellement tous ceux qui ont été dans ce conseil d'administration, comment ce conseil a fonctionné et comment se fait-il que les attentes par rapport aux mobilisations des fonds, qu'on nous dise qu'il y a des failles à ce niveau. Qu'est-ce qui n'a pas marché, Pascal? Nous sommes des Togolais, il faudrait qu'on puisse savoir. Parce que ceux qui ont mobilisé, par exemple, tout le temps, ceux qui paient les impôts, sont en mesure de savoir ce qui n'a pas marché. L'Assemblée nationale a joué sa partition, mais c'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Il faudrait que l'Assemblée nationale puisse aller loin en invitant, par exemple, les premiers responsables de l'OTR. Je ne sais pas s'ils l'ont fait. S'ils ne l'ont pas fait, c'est le moment de le faire, de les auditionner pour voir qu'est-ce qui n'a pas marché. Parce qu'une chose est de dire qu'on a changé le mécanisme. Une autre chose est de convaincre maintenant les gens à pouvoir encore mobiliser les fonds. Parce que les gens vont se dire, on avait mobilisé. Tout le temps, on vient prélever les taxes, mais qu'on nous dise qu'on n'a pas atteint l'objectif. Les gens seront réticents à pouvoir encore pouvoir donner, payer les taxes. Comme je l'ai dit, prenez le cas aujourd'hui des Togolais, Pascal. La plupart, comme je l'ai dit, vous allez voir, les gens ne louent plus les magasins. Quand vous allez au grand marché, ce n'est pas des Togolais qui ont des magasins, hein. C'est les étrangers. C'est les étrangers qui ont loué les magasins. C'est eux qui ont les grands magasins au grand marché aujourd'hui. C'est les étrangers. Mais les garages aujourd'hui à la maison, c'est les Togolais. C'est ça le paradoxe. Donc vous voyez, entre-temps au moins, certains louaient leur garage pour les églises, mais aujourd'hui les églises cherchent les garages, ne trouvent plus, parce que les propriétaires des maisons ont finalement loué ces garages-là aux commerçants, aux commerçantes. Vous voyez, donc il y a un problème. Il y a un problème, Pascal.
Il y a un problème, Jacques, merci. Oui, Gosson, quand déjà aujourd'hui, pour la mobilisation des recettes, l'OTR dépasse les 1000 milliards, puisque c'est déjà ce que, on parle même d'ailleurs cette fois-ci, alors de plus de 1200 milliards que l'OTR doit mobiliser. Et l'année passée, nous avons vu, nous avons écouté même d'ailleurs également la manière dont cela a été mobilisé et aussi l'OTR qui a atteint même d'ailleurs ses objectifs. Mais finalement, quand on écoute, on apprend que l'OTR n'atteint toujours pas son objectif, est-ce que dans la gestion, est-ce qu'il n'y a pas un souci?
Pascal, désolé de prendre le consent de ce qui se dit. L'OTR n'a pas été créé en 2025, ni en 2024, encore moins en 2023. Depuis sa création, les écrits de liberté sont encore là, bien vivants. Sur la gestion, il y avait à redire. Nous avions écrit. Avant l'actuel commissaire général, il y a eu un Rwandais. Après le Rwandais, il y a eu l'actuel président de l'Assemblée nationale, ADD. D'abord, je veux savoir, avant d'aller plus loin, de quel rapport il s'agit. Quand l'IGE a fait des contrôles à l'INAM, à la SAFER et autres, on a mis à disposition du public ces rapports. De quel rapport on parle sur l'OTR et auquel nous, hommes de médias, ne pouvons pas accéder pour pouvoir mieux nous exprimer? Parce que moi, sans ces rapports, je ne pourrais pas avancer plus devant. Maintenant, je me dis, sous Gapéri, personne n'a vu de faille. Or, ce ne sont pas les fonds mobilisés aujourd'hui qui étaient mobilisés dans le temps. Sous ADD, les fonds mobilisés dans le temps n'atteignaient pas ce qu'il y a aujourd'hui. Et c'est sous l'actuel commissaire général qu'on dit que c'est insuffisant.
Je veux bien croire. Mais vous étiez où? Puisque moi, bizarrement, c'est l'ancien commissaire général qui est aujourd'hui président de l'Assemblée nationale. Et c'est l'Assemblée nationale qui vote la loi. Je veux comprendre plus clairement. Je suis journaliste. Je doute de tout. Avant d'aller plus loin, qui est mauvaise gestion, je le concède. Mais sans le rapport dont on parle là, je ne vais pas m'asseoir sur des mots et tirer sur qui que ce soit.
D'accord, voilà. C'est votre droit de douter de tout, ça fait partie du journalisme même d'ailleurs. Nous allons quitter le sujet, on va s'intéresser à un autre sujet, c'est le journal Tampa Express qui nous amène à Bassa et parle alors de la prison civile de Bassa. Le journal écrit « Prison civile de Bassa, déshumanisation, présence de la gale, la honte du siècle ». C'est ce que le journal écrit, oui, pour ce qui concerne le débat dans nos lieux de détention. Détention carcérale, on a eu toujours quand même à parler de cela dans cette émission. Le débat était toujours fait, mais quand on prend ce que nous dit déjà ce journal, disait, ça veut dire que pour ce qui concerne alors la prison civile de Bassa, il y a toujours des choses à améliorer.
Mais d'abord, c'est très ce que dit le confrère, c'est très saisissant. Mais si vous voulez parler de la prison de Bassa, mais ayez un regard pour la prison de Lomé. Si la prison de Lomé n'est pas logée à une bonne enseigne, donc n'allez pas penser que ce sera à Bassa que la prison sera un paradis. Donc c'est la même situation un peu partout, avec un peu plus de complications à l'intérieur du pays. On va vous dire que la prison civile de Lomé, c'est encore mieux. Par rapport à la prison civile de Thévier, par rapport à... Voilà, il parle de Bassa, ça va être très très compliqué ce qui va se passer là-bas. Et ça repose, ce dossier de notre confrère, repose encore la question habituelle de la gestion de nos centres de détention. Je pense qu'il y a quelques jours, le ministre... Nam Tougli avait donc participé à une activité dans ce sens où on parle de l'humanisation ou si vous voulez des prisons, de la gestion des prisons et également à améliorer la politique de surveillance, de réinsertion des détenus. Donc je pense que c'est un problème national. Une réforme qui doit être faite de façon globale pour que, même étant en prison, des Togolais continuent d'avoir leurs droits et à aller en prison pour une faute ou par erreur des fois, ça ne soit pas un peu comme aller, comme les uns les autres disent, en enfer. Donc, on en a toujours parlé et si on veut également... améliorer cette question-là. Il y a tellement de contours, mais il faut veiller à ce que des gens qui vont en prison n'aillent pas attraper des maladies à la prison ou n'aillent pas serrer la main à la mort à la prison et qu'on... voilà, toutes choses qui n'honorent pas notre pays de toute façon et qui font que le pays sera ou va être toujours interpellé lors des examens périodiques à l'international, des communiqués, de tout ça. Ça ne va pas faire du bien à certains, mais si la situation ne s'améliore pas, ces communiqués vont continuer à sortir et ce n'est pas bien du tout. On parlait de la prison civile de Lomé. La prison civile de Bassa vient de se signaler. Peut-être que demain, ce sera la prison civile de je ne sais d'où. Et ça ne nous honore pas.
D'accord, merci Didier. Oui, quand nous parlions de l'OTR tout de suite, il y a un confrère qui nous donnait cette précision. Et le confrère écrit où nous dit que l'OTR atteint ses objectifs, mais son autonomie le rend inefficace. C'est-à-dire conseil d'administration et le conseil de surveillance ne fonctionnent pas bien. Le commissaire pouvait nommer et défaire à sa guise. Donc c'est cette précision que le confrère voudrait bien sûr nous faire. Alors Jacques, revenons sur la question des prisons civiles alors dans nos différentes régions alors du pays. Et aujourd'hui, quand on prend celui qui est en détention, c'est le droit, enfin c'est la liberté seulement qu'il est. Il doit être privé alors seulement que de la liberté et pour ce qui concerne surtout ses droits devaient être garantis.
Bien sûr, je crois que notre confrère Tampa Express n'a fait que gratter sa, là où ça le fait mal. Parce qu'il est, vous savez qu'il est de Bassa.
Tout à fait, il est natif de la localité.
La localité. Donc, il a enquêté. Et vous voyez, comme je disais tout à l'heure, si Bassar, souvent dit que si cela ainsi pour le bois vert, qu'en a-t-il pour le bois sec? Donc, c'est ça. Donc, c'est pour vous dire que quelque part, ce n'est pas seulement Bassar, sur toute l'étendue du territoire. Hier, j'ai suivi un documentaire sur une prison au Tchad, où le ministre de la Justice est allé rendre visite aux prisonniers. Pascal, il y avait une femme qu'on avait arrêtée, et la femme a fait presque 4 ans, sans motif. On ne sait même pas pourquoi on l'a arrêtée. La femme a fait 2 enfants en prison. Deux enfants en prison. On ne sait pas pourquoi on l'a arrêté, elle était là-bas. Et quand elle a commencé par pleurer...
Est-ce qu'il y avait son mari aussi en prison?
C'est ça le problème. On ne sait pas pourquoi on l'a arrêté. Et finalement, le ministre a donné des instructions et sur le champ, elle a été libérée. Donc c'est pour vous dire que Pascal, vous savez, dans les prisons aujourd'hui, les gens, certains se retrouvent sans motif. Ils sont là, on ne sait même pas pourquoi ils sont là. Et d'autres, c'est vrai que ils commettent quand même des choses avant qu'on les prenne. Mais il faudrait aujourd'hui, je salue ce que le ministre Nam Tougouli est en train de faire actuellement par rapport à nos prisons. Il faut reconnaître que depuis qu'il est arrivé quand même, on sent quand même l'amélioration, on sent quand même le changement au niveau de la gestion quand même des prisonniers. Parce que quand on arrête quelqu'un, ça ne veut pas dire que c'est la fin de vie de cette personne. Tout juste, c'est pour que la personne se corrige et sorte. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, quand certains rentrent en prison, ils sortent, ils ne font plus assez de temps, ils meurent. Donc je crois que la prison ne devait pas être ça. Donc il faudrait que le gouvernement puisse réfléchir encore, voir comment effectivement prendre soin de tous ces prisonniers-là que nous avons et essayer, Pascal, de programmer les jugements. Il y a des gens qui font des mois, des années, ils ne savent pas pourquoi ils sont là-bas, on ne les juge pas, et finalement ils sont toujours là. Donc, plaise à Dieu qu'avec ce que le ministre de la Justice est en train de faire actuellement, qu'on puisse organiser les jugements, c'est-à-dire peut-être que des trucs foraines, pour aider ces prisonniers qui sont là depuis un temps, qu'on ne les juge pas, qu'on puisse les juger, et s'il faut les condamner, on les condamne, s'il faut les libérer, qu'on les libère.
D'accord. Oui, Gosson.
Oui.
Nos lieux de détention, quand on prend tel que Bassa, la prison civile de Bassa, tel que le journal a écrit, finalement, on va en prison pour avoir des maladies.
Pascal, ce n'est pas parce que sur un plan, le ministre de la Justice a fait bien et je l'ai applaudi que sur un autre, quand il va faire mal, je vais continuer à applaudir.
C'est votre droit.
Oui, je m'explique. Bassa n'est que la face visible de l'iceberg, en dessous de l'océan là. Le problème est plus balèze, plus colossal. Bassa n'est que ce qu'on voit. Je suis curieux de ça. Nous appelons nos prisons comment? Prison civile. Je précise, prison civile. Mais Pascal, aujourd'hui, tous les régisseurs, quasiment tous les régisseurs de prison, ne sont plus des civils. C'est des corps habillés. Or, les civils constituaient un contrepoids des SAP, les agents de service de l'administration pénitentiaire. Ce qui faisait que certains abus était freiné. Aujourd'hui, ceux qui devraient surveiller les SAP sont encore les forces, les corps habillés. Normal que des situations se développent et que ce soit seulement grâce aux journalistes qu'on arrive à les apprendre. Que le ministre, selon nos informations, il y a un corps habillé haut gradé qui lui mettrait la pression pour cette réforme dans les prisons. Mais en quoi est-ce que ces prisons peuvent encore être qualifiées de civiles si les régisseurs aussi doivent porter le treillis? Je ne veux pas aller plus loin, mais c'est ce que nous avons appris. Nous ne sommes pas encore pressés pour sortir ça.
D'accord. Chers confrères, nous allons en arrêter là pour ce qui concerne le débat, parce que le principe de l'émission, vous le savez très bien, nous allons écouter aussi nos auditeurs. Je sais qu'ils s'impatientent à rentrer en ligne pour s'exprimer sur des sujets débattus ici au Club de la Presse, et c'est sur nos deux numéros, 90 86 35 35, 91 36 63 75, également sur notre numéro WhatsApp, 90 45 78 57, mais bien avant, nous allons écouter nos annonceurs.
Canal FM. J'adore.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35 91 36 63 75. Premier auditeur en ligne. Allô.
Bonjour Pascal.
Oui, bonjour Basile. Comment vous allez?
Ah, c'est glaisement.
D'accord. Allez-y.
Bon, nous Togolais, nous faisons comme ce qu'on sait, mais on fait comme on ne le sait pas. C'est ça qui me fait des fois rire un peu. Et l'OTR, c'est pas eux là, quand vous êtes dans le quartier à moins de 2 ans de service, ils montent des maisons que tu ne peux même pas voir, elle avant là, tu ne peux pas voir la fin. Moi, je ne comprends pas. Comment est-ce que ça va marcher? Ça ne peut pas marcher. Mais ce n'est même pas que cette personne a contracté un prêt quelque part. Non. C'est parce qu'il est à l'OTR là. Et comme ça, personne ne cherche à voir d'où il trouve cet argent pour faire ça. Et maintenant, on va venir essayer de parler que ça ne marche pas, ça ne marche pas. Pourtant, on collecte l'argent d'une manière même que je ne sais pas quel qualificatif il faut utiliser là-bas. Et pourquoi ça ne marche pas? Et c'est parce qu'on ne veut pas vérifier, on ne veut pas faire quelque chose. Voilà. Merci.
D'accord. Merci, Basile, pour votre intervention. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. Bonjour, Pascal. Bonjour, le plateau. Joyeux anniversaire à monsieur Jacques Dzakouti. Moi, je vois plus le verre à moitié plein concernant l'immigration choisie. Si le Togo a de la difficulté à absorber la main-d'œuvre valide, on ne peut qu'encourager l'immigration légale, surtout que l'apport de la diaspora à travers les transferts d'argent qu'elle envoie au pays pourrait contribuer à la construction du pays et à la dynamisation de son économie. Tout n'est qu'une question d'organisation au niveau du sommet de l'État. Merci et bonne journée. C'est Cyril qui nous écrit depuis le Canada. 90 86 35 35 91 36 63 75. Allô.
Bonjour Pascal.
Bonjour Patrick, comment vous allez?
Pas la grâce, ça va bien.
D'accord, allez-y.
Et vous?
Ça va aussi, pas la grâce de Dieu.
Ok. Je salue Jacques, Didier, et puis le grand pige. Alors, pour revenir dans l'émission, je voulais quand même dire quelque chose. C'est que le Togolais, en fait, est très patient. Le Togolais, en fait, ne cherche pas grand chose. Quand vous allez voir des rapports, ou bien les éditions des journaux internationaux concernant l'immigration, quand on donne des effectifs, vous verrez qu'il y a peu de Togolais qui s'y figurent, qu'il y a peu de Togolais qui prennent la route de la mer et qui parfois ces gens-là n'atteignent jamais. Il y a peu de Togolais. Mais si maintenant, on voit que beaucoup de Togolais veulent partir, c'est parce que ça ne va pas. Pourquoi ça ne va pas? Imaginez des entreprises qui emploient les jeunes, qui sont soi-disant des contractuels, qui font 10 ans, 15 ans de service sans être engagés. Le salaire est le même, alors que être contractuel, vous pouvez gagner votre salaire au même niveau que quelqu'un qui a le bac ou bien la licence, mais sauf que vous n'avez pas les primes de consort. Mais ici, on vous donne un salaire. Et quand la société est fatiguée de vous, parfois on vous donne, on vous amène encore dans une entreprise privée, soi-disant prestataire, qui vous emploie aussi. Vous voyez jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Alors que le jeune là, peut-être atteint déjà 40 ans, 45 ans. Comment va-t-il vivre le jour dur de sa vie? Jacques a si bien dit ici, regardez, d'ici 50 ans, 60 ans, si on ne fait rien, nos villages deviendront des villages fantômes. Parce qu'il ne resterait que des vieillards dans ces villages-là. C'est tout ça là. Le Togolais ne cherche pas grand-chose. Quand il y a le boulot, pourquoi je vais chercher? Mais le reste, comme vous l'avez si bien dit, c'est pour aller faire le tourisme. Sinon, s'il y a le boulot, pourquoi je vais encore chercher mieux ailleurs? Merci, bonne émission.
Merci beaucoup, Patrick, pour votre intervention. Salut, Club de la Presse, pour la transparence du recouvrement des taxes locales. Le ministère de l'Économie et des Finances ne peut exiger à toutes les mairies de passer au recouvrement des taxes locales électroniques. C'est une question que se posait Cyril. Cyril qui nous écrit, bien sûr, 90-86-35-35. Allô?
Allô, bonjour, Canal FM.
Oui, bonjour, comment vous allez?
Je vais bien. C'est Nestor depuis Agoué.
Oui, Nestor, allez-y.
Oui, bonne fête à nos frères musulmans. Bonne fête au fils de mon ancien président. Bon, comme les gens, comment les gens ne voudront pas partir si on casse leurs marchandises au marché? C'est quoi la procédure pour faire partir les commerçants du grand marché? Ou bien on fonctionne toujours sur les draps? Mon pays doit sortir du batch d'un pays qui fonctionne à la manière des épiceries. Merci, Canal FM.
Merci, Nestor, pour votre intervention. Allô? Allô, bonjour. Allô? Allô, bonjour.
Oui, bonjour.
Oui, comment vous allez?
Ah, ça va. C'est Nestor depuis le quartier administratif.
Ah, Nestor, vous nous écoutez depuis le quartier administratif. Allez-y.
Oui, concernant OTR. Vous voyez un peu nos petites activités qu'on est en train de faire là, les conventions là. À la longue de la journée, chaque journée là, OTR nous prélève 10% sur nos commissions. Sans nous avertir, hein. Ils prélèvent 10%. Vous voyez, si tu as travaillé beaucoup, ils prélèvent beaucoup. Vous imaginez un peu combien on paie OTR par mois. Et dans tout ça là, eux, ils sont bien, ils roulent dans des bagnoles, ils sont bien payés. On les paie même plus 3 millions, c'était parmi eux. Eux, ils ne demandent pas ce que nous, on a, nos activités, là, si on gagne à chaque fin du mois, là, ils ne demandent pas. Hein. Ou bien nous ne sommes pas des Togolais. Donc, ils n'ont qu'à bien réagir, quoi. Entre-temps, il y a un agent qui disait qu'eux, ils ne produisent pas, qu'eux, ils sont là pour collecter. Comme ils sont nombreux, là, ils n'ont qu'à créer une entreprise, au moins pour donner un peu de sous à l'État. Il n'y a pas seulement les miettes qui vont prendre pour eux s'enrichir.
Merci, Nestor, pour votre intervention. Allô?
Allô.
Bonjour, madame ici. Oui, bonjour. J'espère que vous allez bien.
Bon.
D'accord, allez-y.
La grippe perdure un peu, mais bon. Une chose à baser à ça et à question, je sais pas si il est à l'ONU. Bon, OTR, je crois que Ghana, quand l'entreprise s'ouvre nouvellement, comme je viens d'en ouvrir là, il y a un mois ou moins, quoi, parce que on veut pas qu'on travaille, il faut qu'on crée nos trucs. On est revenu dans ce pays, on en a créé, mais les douanes, comment on dit ça? C'est les douanes, hein, avant, non? Nous ont plumé, et puis maintenant, on a essayé encore de rouvrir une autre, il n'y a pas longtemps. Mais le pire va arriver, dès qu'il va voir.
Allô? Oui, allô, madame, ici, je vous écoute.
C'est le maire au Ghana. Au Ghana, c'est quand on ouvre une entreprise, non? On laisse travailler deux ans. Avant de machin, quoi. Bon, puis les mêmes problèmes, hein, la diversion et la débâcle, et dépend du développement, et puis voilà, le pays est ruiné, et on est tous dedans. Je sais plus de quoi vous avez parlé, mais bon, on doit fermer le pays. Si on a fermé, moi je sais que le pays n'a plus existé, et le Togo ne va pas mourir. le Togo ne va pas mourir. Voilà.
Merci, Madame Essi. Et merci, ouais. Madame Essi, pour votre intervention. On a encore quelques minutes pour recevoir notre dernier auditeur. Allô? Allô, bonjour. Allô, allô. Oui, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Oui, votre nom c'est
Natema.
Ah, monsieur Natema.
Allô?
Oui, je vous écoute, monsieur Natema. Oui,
moi, je veux intervenir sur ce qui se passe dans ce phénomène-là. Je salue monsieur Jacques Lara, je salue tous. Mais le phénomène, pourquoi il n'y a pas d'argent? Pourquoi on perd, vous savez, depuis 63 jours aujourd'hui, le pouvoir est dans 5 ans. Et vous l'avez dit, fort a bien fait ça. Si le pouvoir allait d'un côté, et aujourd'hui, ce qu'il dit. Aujourd'hui, c'est ceux qui sont au pouvoir, c'est eux qui ont le de l'argent. Et même l'argent n'a pas les formes, ils créent une autre place de tout. Kofi Gendo a fait Afrique, Kofi Gendo a fait une banque. Combien de personnes travaillent là-bas? Elle demande à créer son ami, pour créer son ami. Vous voyez, ceux-là, les gens de l'hôtel, ils ont des hôtels, des trucs. Mais on, ils ne payent pas autant. D'abord, le ministre, il ne consulte rien. Or, il ne fait pas péage. C'est ceux qui sont tous là. C'est eux qui ont vu le aujourd'hui. Comment vous voulez que le pays va marcher? Voilà, c'est des signaux. Les gens vont partir. C'est ça. Et demain, là, le pays va faire comment? Le droit dit ça. Dans le village, dans le monde, dans le CIA. Et les jeunes qui sont là, ils sont plus le surabi de la serraille. Ils ne peuvent même pas finir. Mais si, c'est-à-dire que si le gouvernement ne fait rien, si on veut continuer, on va tomber.
D'accord, merci beaucoup Natema pour votre intervention. Je pense que Natema c'est le dernier auditeur pour le compte alors de cette émission. Mais nous avons des réactions sur notre numéro WhatsApp. Bonjour Pascal, juste un témoignage. Un jeune qui se cherchait ici à Lomé était toujours à la charge de sa famille. Mais quand il a réussi à partir aux USA, bien qu'il n'ait pas encore trouvé un boulot parfait et qu'il s'active seulement dans la livraison de colis en l'espace de 3 mois, il a réussi à envoyer 300 000 francs CFA pour s'occuper de sa mère malade. Alors que quand il était ici, on ne pouvait même pas compter sur lui pour un 10 000 francs CFA cash. Dans cette situation, le choix est clair quand l'occasion se présente pour quitter le pays. Donc c'est Prosper qui nous écrit depuis Adetikopé. Bonjour Canal FM, avec l'OTR qui peut trouver l'occasion de partir à l'extérieur, il va rester soi-disant qu'il va entreprendre. Moi, c'est mon passeport qui a eu un souci d'entachement et qui m'a été créé par un oncle familial et je suis toujours ici. Sinon, avec le nouveau Sénat, là, le pays sera encore au chaos. C'est également un autre auditeur qui nous écrit. Chers confrères, nous revenons en plateau pour un dernier tour de table et mettre fin à l'émission. Jacques, vous avez écouté les uns et les autres se prononcer sur l'actualité, votre réaction?
Non, je crois que, Pascal, merci d'abord pour l'opportunité que tu nous offres chaque lundi. Et il faudrait que ce que nous disons, les analyses et les appels des auditeurs, fassent en sorte que ce que nous disons puisse contribuer à l'évolution de notre pays. Pascal, si on est là, on parle, les gens appellent et puis ils donnent leur contribution, il faudrait qu'on puisse prendre ça en considération. Il ne sert à rien, Pascal, qu'un Togolais puisse abandonner sa patrie et pour aller ailleurs. Donc, il faudrait que nos autorités puissent prendre ça en compte et voir comment aider effectivement cette jeunesse aujourd'hui qui est en train de chercher des repères. Aujourd'hui, Pascal, vous voyez, quand on publie par exemple un rapport ou une localité, on voit beaucoup de grossesses, des filles, des jeunes qui devaient aller à l'école pour être quelque chose demain. Et elles sont obligées de rester à la maison pour s'occuper de ces grossesses. Pascal, quelque part, quand vous êtes un parent, ça fait mal. Donc il faudrait que les autorités prennent les taureaux par les cornes. Il faut que la jeunesse, qu'ils occupent la jeunesse. Quelqu'un qui est occupé, Pascal, ne peut pas avoir sa tête vers le sexe, ou de l'alcool, ou la boisson. C'est quand on n'est pas occupé, dans la tête, qu'on fait ce qu'on veut. Mais quand vous êtes occupé, le matin, Pascal, vous savez que vous devez vous réveiller pour aller faire ci et faire ça, vous n'aurez pas votre tête figée sur le sexe. Donc je crois que quelque part, il faudrait que nos autorités puissent occuper cette jeunesse, que cette jeunesse-là puisse travailler. Et lorsque la jeunesse travaille et que la jeunesse a les moyens, ils vont fonder leur foyer au lieu d'aller enceinter les filles de gauche à droite et consommer de l'alcool. Non. Donc je crois que c'est la responsabilité à nos gouvernants de nous aider à aider effectivement ces jeunes-là à pouvoir s'épanouir.
Merci Jacques. Didier ?
Ben oui, Jacques a su bien faire peut-être le pont entre les sujets. À défaut de partir, certains préfèrent plutôt enceinter ou tomber enceinte. Ça dépend. Et donc, mais je pense que ce que nous disons, c'est... Heureusement que c'est des faits que nous analysons, c'est des faits que nous décryptons, avec des fois des chiffres à l'appui. Et c'est des choses que nous vivons tous les jours, c'est des réalités de notre Togo, à nous. Il vaut mieux, et cela va dans l'intérêt de tous, que ces sujets soient pris au sérieux et que les prochains programmes de politique publique que nous voulons élaborer prennent en compte la situation que vivent les Togolais aujourd'hui, qui le disent d'ailleurs en appelant sur les antennes et qui l'ont dit à travers les sondages et tout. Ces difficultés-là puissent être prises en compte pour que le Togolais se sente mieux et que nous, le pays, se sente mieux également. Parce que quand les Togolais iraient mieux, c'est le pays qui ira mieux. Donc, courage aux Togolais qui nous suivent, courage à chacun de nous. On continue d'être là pour le moment pour analyser les situations. Je ne vais quand même pas te dire que... si j'ai de l'opportunité, je partirai. Je ne vais pas te dire ça.
D'accord. Je ne voudrais même pas l'écouter aussi de ta bouche. Oui, Gosson.
Oui, j'avais oublié un point. On parle de la prison de Bassa, dans laquelle se développerait de la gale. Et même dans certains hôpitaux, dont le CHU, il y a des matelas qui renferment des puces, des tiques. Si là, les gens ne sont même pas privés de liberté, et pourtant, la gestion est telle qu'il y a de ces maladies ou de ces acariens qui s'y développent, qu'en sera-t-il des endroits où les gens sont privés de liberté? Une fois encore, j'interpelle le ministre de la Justice à faire ce qu'il faut pour qu'on assainisse les lieux de détention. On n'y va pas pour mourir ou pour développer des maladies, mais juste pour payer le tribut à la société en étant privé rien que de la liberté.
D'accord.
Sur le plan de...
rapidement.
Les candidats à l'émigration, je ne vais pas les décourager, mais juste demander à ce que ils utilisent des voies légales pour que arriver enfin à destination... ils ne soient pas rapatriés du pays dont...
D'accord.
Du pays qu'ils ont quitté.
D'accord. Merci beaucoup, Gosson Keto Moyen. Je rappelle que vous êtes journaliste au journal Liberté. Merci d'être passé dans cette émission. Merci à Didier Assogba, directeur de publication du journal Togo Breaking News.tg. Merci d'être passé dans cette émission. Merci à Jacques Diakouti. Jacques, une fois encore, joyeux anniversaire.
Merci.
Et merci d'être passé alors dans cette émission. Vous êtes journaliste, analyste, politique. Merci à vous tous qui nous avait suivi puisque nous sommes à la fin de cette émission. Merci à Michel Tomega qui a assuré la mise en onde. La mise en ligne a été assurée par Jérôme Dakoutia. Je suis Pascal Lossou. Je vous retrouve demain mardi à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.
Cette émission vous a été offerte par la bière Weichsteiner, aussi nommée Sicavi, est une bière internationale d'origine allemande depuis 1753. Distribuée au Togo par la SNB. Weichsteiner, la vie dorée.